J'ai tout vu, tout lu, tout bu, tout bu, et j'en ai vraiment, vraiment plein le cul.
Oui, aujourd'hui, 999e jour que nos compatriotes Georges Malbruno et Christian Cheynot sont détenus en otage, le président de la République Nicolas Sarkozy et son ministre de l'Intérieur Bruno Gollnisch rassurent les Français et leur promettent que tout est fait, tout est mis en œuvre pour leur libération très très prochaine. C'est Michel de Lyon.
Franck de Dourdes à Damien, Bouygues Télécom vient inventer la journée sans émetteur. Contrairement à ce que leur spécialiste vient d'affirmer dans le flash de 17h, on ne peut toujours pas émettre d'appel, ni en recevoir d'ailleurs. Si TF1 pouvait suivre, ça nous ferait du temps de cerveau disponible. Bonne soirée, salut.
Les plus grands maîtres ne sont pas ceux qui imposent des chaînes à leurs esclaves, mais ceux qui persuadent leurs esclaves qu'avec les chaînes, ils vivront plus heureux.
Oui, bonjour. Je voudrais m'adresser aux directeurs commerciaux et autres chargés de communication qui achètent de la publicité sur France Inter. Messieurs, mesdames, vous faites un investissement à perte. Les auditeurs d'Inter sont plus intelligents que les autres. Et je le sais puisque j'en fais partie. Et donc, ils savent se servir souvent sur leur autoradio ou sur leurs autres postes de réception du bouton de volume afin de zapper les publicités. Messieurs, mesdames, vous perdez de l'argent. Arrêtez d'acheter de la publicité sur France Inter. Vous investissez à perte. Voilà.
J'interviens au sujet de l'émission qui est passée hier mercredi concernant donc le quartier chinois à Paris dans le 13e arrondissement. Je voudrais simplement dire que lorsque vous faisiez allusion au nouvel esclavagisme, c'est-à-dire que dans ce quartier chinois, il y a beaucoup de personnes qui travaillent comme en statut d'esclavagiste. Je voudrais simplement me rappeler mes souvenirs de jeunesse, parce que c'est ce quartier, dans ce quartier, j'ai grandi. Et avant qu'il y ait ce quartier donc chinois, il y avait le quartier des usines Panhard Citroën. Et je veux dire qu'on a remplacé un esclavagisme par un autre, car dans ce quartier, il y avait des usines où on voyait les personnes, donc des hommes et des femmes, principalement des maghrébins, qui étaient notoirement exploités. Je voulais aussi faire allusion à l'église Saint-Hippolyte, où il y avait des prêtres, ce qu'on appelait des prêtres rouges, qui se sont beaucoup battus pour tous ces gens, tous ces ouvriers qui vivaient là à l'époque et qui aujourd'hui sont dispersés. Et je pense particulièrement à un prêtre qui s'appelait Jean de Méribel, qui s'est vraiment battu, qui a été dans la rue, qui a vraiment lutté auprès de ces gens pour leur dignité. Je vois qu'en 2004... les choses n'ont pas beaucoup changé. Il y a de quoi être des fois démoralisé. Au revoir. C'est Annie de Rémilly en Moselle.
Voilà quelques-uns de vos messages sur le répondeur de la basse. J'y suis. Grains de sel et grains de sable qui grincent parfois. C'est bien agréable ce petit bruit quand ça grince. Et puis de la mémoire. Très très souvent, on a des messages comme ça d'anciens qui font des rapprochements, comme vient de le faire cette auditrice. Effectivement, le quartier chinois de Paris, une partie de ce quartier chinois est construit sur les anciennes usines Panhard, Citroën, de l'avenue de Choisy, de la porte de Choisy, et le rapprochement est judicieux. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir des auditeurs comme vous, sans démagogie aucune, bien évidemment. Aujourd'hui, on continue cette balade sur dans Paris, Paris Asie, Paris terre d'Asie, et aujourd'hui on va évoquer plus le Vietnam, l'aller-retour Vietnam Paris. On ira faire un petit tour à Hue, et puis on réveillera chemin faisant quelques fantômes. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. 01 56 40 37 37.
Ben oui, ben j'espérais parler à quelqu'un parce que j'ai pas eu le temps de mémoriser l'adresse, enfin bon, pour ce soir, les apatistes. Bon ben, tant pis. Bonne soirée.
Salut tout le monde et viva Zapata. La résignation prêchée par les médias de libéralisme n'est pas de mise dans le monde entier. Les apatistes du Mexique continuent leur lutte pour eux-mêmes construire leur vie. À Marseille, nous, le collectif Caracol, organisons une projection et un apéro tchatch autour du livre EZLN 20 et 10, Le feu et la parole. C'est avec l'auteur Gloria Munoz qui a partagé des années la vie des communautés rebelles. Ça se passe à Millebabord, 61 rue Coltola, dans le premier arrondissement. C'est ce dimanche 21 à 17h. On peut le contacter au 04 91 25 27 22. Merci.
C'est Laurent à Chambéry. Je voulais juste exprimer mon désarroi face à la crise polynésienne. On s'aperçoit là-bas que la démocratie est bafouée. Alors, on a une super ministre qui vient d'entrouvrir la porte, bon gré mal gré, à la discussion. Mais il ne faut surtout pas se leurrer, car la discussion sera organisée en fonction des attentes et des désiratas de Gaston Flosse, au mépris total de vote du 23 mai qu'ont exprimé tous les Polynésiens qui ne veulent plus de ce système Flosse, qui depuis 20 ans pioche dans les caisses de l'État pour faire totalement n'importe quoi. Alors si un jour tu as l'occasion de te rendre là-bas à nouveau pour enquêter et nous faire part des dessous, tu peux toujours prendre contact avec Tahiti Pacific, un magazine indépendant, totalement indépendant, qui pour l'instant est le seul à nous apporter encore quelques informations, car lorsque l'on va sur les sites des télés polynésiennes, eh bien, l'information est retenue par le système FLOSS. On ne sait plus rien. À bientôt.
Salut Mermé, c'est Claude dans l'Orne. J'ai écouté Jean-Pierre Vernant, dont j'avais beaucoup apprécié le travail sur le mythe des âges chez Hésiode, dans Mythes et pensées chez les Grecs. Et puis il terminait en admettant être un vieux machin... qui estimait que les trains n'ont pas à être rentables. Alors d'une part, c'est pas un vieux machin, mais un vieux machin, c'est un petit peu mon cas aussi. Et je réfléchissais à la notion de privatisation. Comment se fait-il qu'on ne nous explique pas que ce qui nous attend, et spécialement les vieilles personnes, dont je ne suis pas encore tout à fait, mais ça vient, c'est qu'on va rencontrer toujours davantage, ou en tant que prestataire, le bon docteur Knock, quelle que soit la chose qu'on demande. Si on privatise... On aura affaire à des prestataires privés qui seront toujours plus juges et partis, ce qui est insupportable en droit. Donc avec la privatisation, celui qui doit donner le diagnostic du malaise, c'est aussi celui qui ne peut s'enrichir qu'en soignant le mal. Donc à partir de là, la tentation, c'est que ce que vous avez, c'est très grave. On peut le soigner, mais ce sera très long et très coûteux. Je t'avais envoyé d'ailleurs un petit bouquin qui s'appelait Vérole, il y a 6 mois ou 1 an, et il y avait dedans, pour une autre raison, pour un autre champ d'application, un commentaire de Knock dont j'ai pas eu beaucoup de réponses, je dois l'avouer. Voilà, à bientôt peut-être, salut.
Oui, bonsoir, c'est Laurent de l'association Droit de Bon. Je voulais dire que bon, les tréteaux de la colère font des spectacles dans la rue... contre tous les colonialismes, contre tous les murs, et aussi pour les droits, contre les arrêtés anti-mondicité, etc. Pour finir mon service, autant qu'un je suis parti, ah quel beau pays, mesdames, c'est le paradis des petites femmes, elles sont belles et fidèles, et je suis devenu le chéri d'une petite femme du pays, qui s'appelle Mélaouli.
Je l'appelle ma petite bourgeoise, ma tanguini, ma tanguini, ma tanguinoise. Il y en a d'autres qui font la soucieuse, mais c'est elle que j'aime le mieux.
Salut, c'est là-bas si j'y suis, c'est Daniel Mermet avec Guy Ventil, Paris, terre d'Asie.
Flight number 2, arriving from New York.
Le Yangtze-Kiang n'est pas un fleuve, c'est une avenue. Une avenue de 5000 km qui dégringole du Tibet pour finir dans la mer Jaune, avec des jonques et puis des sampans de chaque côté. Et au milieu, il y a des tourbillons d'îles flottantes avec des orchidées hautes comme les arbres. Et Yang Sekiang, camarade, c'est des millions de mètres cubes d'or et de fleurs qui descendent vers Nankin. Et avec tout le long des villes pontons où on peut tout acheter, les alcools de riz et la religion, puis les garces et l'opium. Je peux vous affirmer, tenancière, que le fusilier marin a été longtemps l'élément décoratif des maisons de thé. Dans ce temps-là, on savait rire. Elle s'était mise sur la paille pour un maquereau roué rose. C'était un juif, il sentait l'ail. Et la veille venant de Formose tirée d'un bordel de Shanghai.
Oh, c'est beau.
C'est pas de moi. C'est des vapes comme ça qui me reviennent quand je descends le fleuve.
Je croyais que c'était une avenue.
On sait pas. C'est peut-être un rêve qui jette dans la mer.
Alors voilà, on ouvre le rideau. Un deuxième rideau coulissant, un troisième rideau, cette fois-ci en coton. Oh là là, incroyable.
Extraordinaire, c'est des frissons. C'est une espèce de grande salle, comme on l'imaginait à la cité impériale de Wei. Avec tous les motifs qu'on trouve, les motifs en forme de nuages sur les piliers. Non, on est vraiment d'une grande reconstitution.
Il y a un piano dans un coin sous un...
Parce que je pense que la salle sert maintenant pour les œuvres, enfin pour les fêtes d'étudiants. C'était fait pour ça, c'était une salle de bal, d'ailleurs on l'appelait la salle de bal. Donc là on est certes dans la reconstitution, mais tout de même de bonne qualité. On est vraiment dans à peu près ce qui peut ressembler à une salle de ballet de Wei.
Ah ouais, il y a même la lampe, la lanterne. Là, c'est magnifique parce qu'il y a les persiennes qui font passer la lumière à côté.
Il y a un très joli immeuble, hélas, qui faudrait un peu restaurer, des banquettes énormes, des vitrines. Ce sont tout à fait des objets, sans doute pas très anciens, mais en tout cas maintenant qu'ils le sont devenus, puisqu'au Vietnam, pratiquement tous ces objets-là ont été détruits par la guerre. Donc finalement, et ça aussi c'est assez étonnant, même une reconstitution comme celle-là qui peut paraître à un moment donné caricaturale et un peu hollywoodienne, les destructions au Vietnam et puis aujourd'hui la modernisation font que ça devient aussi des endroits qui pourront servir de référence aux Vietnamiens. Les brûle-parfums, les gardiens de pagode et puis le gong à côté avec les formes impériales.
C'est fait exprès qu'on ne sait pas très bien où l'on est. Est-ce qu'on est à Paris? Est-ce qu'on est au Vietnam? Est-ce qu'on rêve? Est-ce qu'on est dans des fantasmes toujours renouvelés pour ce qui concerne l'Extrême-Orient? J'ai des notes et des mots sur une feuille hantée. Hantise, fascination, mystère, opium, mais aussi terreur d'une invasion, d'un engloutissement sous une marée jaune. Et puis j'ai d'autres notes sur une feuille de papier. Indochine, 2 points. Français, 60 000. Vietnamien, 500 000. Guerre du Vietnam. Américain, 58 000. Sud-vietnamien, 200 000. Viet Cong plus nord-vietnamien, 750 000. Des chiffres. Vous aviez compris? Oui, c'est ça. C'est ça le Vietnam dont on va parler aujourd'hui. Là où sommes-nous avec Guy Van Til et Eric Dereau dans un endroit tout à fait oublié. Ces endroits endormis d'une ville comme Paris, ces lieux qui attendent. On ne sait qui, on ne sait quoi aujourd'hui. Là, c'était la cité universitaire. Non loin d'ailleurs du quartier chinois où on était hier, de la porte de Choisy, et que cette auditrice évoquait à l'instant. C'est un ancien pavillon construit en 1931 au temps de nos belles colonies. J'ai aussi une petite note. Et l'avait venant de Formose tiré d'un bordel de Shanghai, comme disait Gabin à l'instant dans Le singe en hiver, un texte d'Antoine Blondin. Antoine Blondin, eh bien ces deux vers sont d'Apollinaire, Guillaume. Et puis autre chose aussi, avant de partir pour ce voyage et retour, ce Vietnam et retour, aujourd'hui, ce qui rend optimiste quand on se balade dans le passé, parce qu'on va se balader évidemment dans le passé, c'est de rencontrer des idées qui faisaient l'unanimité, des certitudes partagées qui ont basculé et qui sont devenues des erreurs, des gourances, des fausses pistes, voire des monstruosités unanimement rejetées. Ça vaut pour les idées, ça vaut pour les événements, ça vaut pour les personnes, je pense à la colonisation évidemment, à la traite des Noirs, à la monarchie, à la masturbation. Oui, la masturbation, c'était la pire des choses. Aujourd'hui, on s'en fout complètement. C'est une chose tout à fait normale, naturelle, et qui n'attire plus les foudres de jadis. Et pourtant, voilà des choses que nous rencontrons et qui ont opéré des renversements complets, ce qui peut nous rendre effectivement optimistes. C'est que, eh bien, les certitudes d'aujourd'hui, les incontournables d'aujourd'hui, les évidences d'aujourd'hui, les « il n'y a pas d'alternative » d'aujourd'hui, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, seront peut-être, et nous ferons tous pour ça, tout pour ça, des erreurs et des choses regrettables. Et la veille, venant de Formose, tirée d'un bordel de Shanghai.
Les faubourgs de Pékin, on rencontre des apaches qui ont un petit air coquin et du riz sur les moustaches. Le soir quand sonne minuit, qu'elle est sur le bord du fleuve, ce couple qui va sans bruit comme une couleuvre. C'est le jeune tulipan qui va faire la fête, il amène sa gigolette sur le Yangtze Kiang. Il est très turbulent, c'est une mauvaise tête, il amène la pauvrette sur le Yangtze Kiang. Il lui dit, tu seras ma gosse, je serai ton petit chinois, avec ta chère écarosse, car j'adore ton petit minois.
Miné, minois, chinois, sournois.
C'est le jeune tulipan qui va faire la fête, il amène sa gigolette sur le Yangtze Kiang.
Mais un cri perce la nuit, wouh! C'est la barque qui chavire, la barque qui ensevelit le couple en délire. Car Tulipan, ce filou, en séduisant la pauvrette, lui a dérobé ses bijoux pour payer ses dettes. C'est un drame angoissant sur les bords du fleuve, c'est le fleuve qui s'abreuve de gouttes de sang. Le chinois frémissant poignarde sa gosse, puis il part faire la noce loin du Yangtze Kiang.
Et malgré tout ce carnage, et malgré ce jour mouli, il gagne arrive à la nage. Et fait chez ses amis. Car le jeune tulipan, pour payer ses dettes, a tué sa gigolette sur le Yangtze Kiang.
Couplet moral, mais un soir plein de remords, tulipan dans la misère, voulut se donner la mort en mangeant du verre. Comme il n'était habitué qu'à ne bouffer que des briques, le ver pilé ne l'a pas tué.
Il a pris de la colique.
C'était le jeune tulipan qui allait faire la fête. Il vient de piquer une tête dans le Yangtze Kiang.
Vietnam.
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 Today has been delayed to late arrival of aircraft. Estimated departure time will be 2:45 p.m.
Hue, Annam. Aujourd'hui, sous la pluie, saison sucrée, nostalgie. Hue, ancienne capitale impériale, ancienne base américaine, base de mort, bordel à Chiang Mai. Hue, écrasée, estourbie par la guerre, doucement secoue son joug, ses entraves endolories. Hue, dépeuplée après la réunification de 1975, Hue, ville des intellos. Ici encore, le lettré est précieux et considéré. Hue, c'est l'histoire, la littérature, la poésie, qui a encore toute son importance, malgré les années martyrs, les années d'occupation, comme si de rien n'était. comme si de rien n'était. C'était il y a 10 ans, en 1994, nous étions à Hué. Et avant de continuer dans ce Paris, terre d'Asie, eh ben on commence par l'inverse, c'est-à-dire Asie, terre de Paris, ou du moins Vietnam, terre de France. Des choses de France restent attachées, accrochées à ce Vietnam si jeune aujourd'hui. On entendait ces voix de jeunes gens. Vietnam. Mais il y a aussi encore des anciens, bien sûr, des anciens avec leur béret. Ah oui, leur béret français. Leur pyjama, c'est très élégant, c'était très élégant il y a encore 10 ans, à Hué, et de porter un pyjama, c'était, voilà, c'est comme ça, ça correspondait à je ne sais à quel courant d'élégance, et puis peut-être le climat et un attachement évident à la France qui se manifestait par la consommation massive de vache qui rit. Oui, la vache qui rit était à l'honneur encore. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui dans cette ville d'Hué, de Hué, au milieu du Vietnam, et au lieu d'histoire, au lieu de mémoire, au lieu de culture aussi. Preuve en est, Monsieur Titoine. Certains auditeurs se souviennent de Monsieur Titoine. 72 ans à l'époque, il y a 10 ans. Qui chaque jour nageait le crawl dans le fleuve jaune avant, disait-il, de rentrer à la maison satisfaire son épouse.
On dit aux des mers là-bas sous le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté, et sous les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays et Paris, par toujours mon cœur est ravi.
Comment se fait-il que vous parliez aussi bien français ?
Je parle maintenant assez couramment le français parce que j'ai étudié le français depuis l'enfance. Nous sommes vietnamiens, élèves vietnamiens, nous obligeons de parler français.
Voilà. C'est ça, c'est-à-dire que quand vous étiez enfant, vos maîtres vous interdisaient de parler vietnamien à l'école.
Oui, à l'école.
C'est ça ?
C'est ça, oui. Pendant la classe, pendant les heures de classe, nous sommes obligés, entre Vietnamiens et les Vietnamiens, nous obligeons de parler français. Voilà. Si quelqu'un, par hasard, ou bien inconsciemment, parlait un mot vietnamien, il a subi une punition.
Quand vous êtes né,
oui.
Votre carte d'identité, c'était une carte d'identité française.
Ah oui, ma carte d'identité, oui, carte d'identité française.
Oui.
C'est ça.
Pendant la guerre en France, ici, vous avez appris aussi Maréchal, nous voilà. Est-ce que vous avez chanté ça ?
Maréchal, nous voilà, devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'égards. Nous devons chanter tous les jours. Maréchal, nous voilà, le sauveur de la France. C'est le gouverneur Vichy, hein ? Hein ? C'est ça, le Vichy. Je me souviens.
Radio Saïgon se met sans peine à l'heure de la Révolution nationale.
Maréchal a dit, pour nous tous, aujourd'hui, la patience est peut-être la forme et l'école la plus indispensable.
Bien difficile de donner du sens au chaos de l'histoire. Comment est-ce qu'on peut se retrouver à Hué, il y a 10 ans, avec Monsieur Titoine en train de fredonner « Maréchal, nous voilà ». Faut vraiment, c'est toujours a posteriori évidemment qu'on raconte, mais pendant, comment comprendre pendant? Et surtout concernant l'Asie, il y a eu une idéalisation, une fantasmisation, je ne sais pas très bien comment dire, enfin une production extraordinaire de fantasmes. On le voit des deux côtés, bien évidemment. Hein, dans ce, on l'a vu avec les Chinois qui viennent, qui rêvent de d'Occident, qui rêvent de France. Il y a des nécessités économique, mais pas seulement. Et réciproquement, il y a eu et il y a encore une production incroyable de rêverie, d'orientalisme extrême pour concernant cette région
du monde, on le voit avec ce pavillon de la cité universitaire. Mais il y a un commencement à ça. Du moins, on a évidemment évoqué les voyages de Marco Polo, mais concernant notre France à nous, la production de fantasmes correspond évidemment à la colonisation. Il a fallu cet habillage, cet enrobement artistique, poétique, pour faire passer la colonisation. Et on revient à Paris, puisque c'est à Paris que nous limitons notre balade. C'est déjà beaucoup, hein, pour cette terre d'Asie qu'est Paris. On commence au bois de Vincennes, dans un endroit très peu connu des Parisiens eux-mêmes, qui est le Jardin Tropical. C'est là qu'en 1907, il y eut une grande exposition universelle, où parmi les villages coloniaux, il y avait des jardins et des bâtiments, des constructions évoquant nos lointaines et belles colonies.
Baladons-nous dans cet ancien jardin tropical. Là, on marche au milieu, il y a une bambouseraie, mais c'est à moitié abandonné, il y a quelques grillages.
Alors, on arrive vers ce qui était la porte d'entrée principale de ce lieu, ce qui est assez amusant. On a une porte de style néo-crypto-indo-chinoise.
Très jolie, ouais, en rouge.
Vous voyez, tous les détails qui restent, des personnages, des animaux, des dragons. Alors que les visiteurs, pour rentrer, passaient sous cette porte. Vous voyez en texte dessus l'inscription exposition coloniale. Ouais. Donc je traduis littéralement. Vraiment, c'était un peu franchir la porte de l'Orient.
Vous dites, oui, c'est ça, le Disneyland des colonies.
Exactement, enfin. On y est. Alors là, on va se diriger, on traverse une très belle allée et on va dans un lieu qui a une histoire assez incroyable. Pour essayer de le résumer en une phrase, c'était à côté donc de toutes ces reconstitutions orientales, c'était toute la partie asiatique du lieu qui a été rassemblée là, et qui a été pendant très longtemps un temple indo-chinois avant de disparaître et d'être reconstitué d'une manière plus moderne, mais qui avait même été sanctifié à l'époque par Kai Ding, l'empereur du Vietnam. Alors ce qu'il faut imaginer, c'est que pendant de nombreuses années, les Vietnamiens de Paris venaient ici, comme les Laotiens et les Cambodgiens, prier. On est vraiment, vous allez voir, presque dans un petit jardin indo-chinois, avec petit temple que l'on voit à droite.
L'esplanade du Din.
Et vous retrouvez au milieu l'urne dynastique de bronze, qui ici, bien sûr, a été sanctifiée en 1920 dans une grande cérémonie en hommage aux Indochinois tombés pour la France. Et en face, un temple qui a été reconstitué en hommage aux morts dans la ville. C'est-à-dire que là, on est dans un petit bout d'Indochine, en plein de Paris. Vous voyez le voyage qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure. Et face à nous, on arrive sur le monument aux morts qui fait le pendant de ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant, aux morts indo-chinois tombés pour la France.
Se trouve en présence d'une commémoration, celle du 50e anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu, le 7 mai 1954, 50 ans, qui allait précéder cette défaite de Dien Bien Phu, allait précéder la fin de la présence française en Indochine le 21 juillet 1954. Et cette musique qu'on entend, c'est celle d'un orchestre qui joue pour l'association des anciens combattants d'Indochine.
Cercle national des combattants.
Merci, monsieur.
Médaillé militaire de plaisir.
Mon général. De plaisir, par plaisir.
Par plaisir et par honneur. J'aime ces mots.
De Tabor Marocan.
C'est Adèle Makila d'Indochine, 39-45.
Alors, mon général, racontez-nous la cérémonie à laquelle on assiste aujourd'hui.
En 1914, l'Indochine française a envoyé en Europe pour défendre la France 100 000 Indochinois. Un certain nombre sont morts et ont été enterrés dans une dizaine de cimetières en France, et l'association que je préside maintenant s'est fondée pour assurer leur sépulture de manière décente dans ce qu'on appelait le jardin colonial du bois de Vincennes. Que chaque année, nous y célébrons devant les monuments aux soldats indochinois en général, aux soldats vietnamiens, aux soldats cambodgiens, aux soldats laotiens en particulier, nous y célébrons la mémoire de tous ces gens qui sont tombés pour la France et en 14, 18 et en 39-45.
Est-ce qu'on a une idée du nombre justement d'indochinois tombés pour la France au cours de ces deux guerres ?
30 000 en 1914 et 10 000 en 1939, c'est-à-dire un bon tiers des effectifs envoyés.
Voilà, des chiffres qui tombent comme ça, comme ceux que je citais tout à l'heure, les pertes en Indochine, français, 60 000, vietnamiens, 500 000. Alors, à non loin de là, à côté de ce prestigieux général, on rencontre des membres du Cercle National des Combattants qui sont assez proches, il faut bien le dire, du Front National et comme d'autres, accomplissent ici un devoir de mémoire.
Pour nous, c'est très important, c'est le devoir de mémoire. C'est le devoir de mémoire. On ne peut oublier tout le sacrifice de ces Vietnamiens qui se sont battus contre le communisme. Il ne faut pas oublier, c'est le communisme qui combattait.
Parce que c'était une lutte d'indépendance aussi.
Oui, mais justement, c'était contre la domination communiste. Hein, le Sud-Vietnam, hein, et les Américains après ont continué pour justement contre le communisme. Hein.
Et d'ailleurs, je crois savoir qu'en Algérie, il y avait pas beaucoup d'anciens combattants d'Indochine qui étaient venus directement de Dien Bien Phu en Algérie.
Absolument, et il y avait même... dans notre régiment, nous avions un commando d'Extrême-Orient qu'on appelait dans les paras, qui était que des Vietnamiens, qui s'étaient battus en Indochine et qui se sont battus après en Algérie. Le commando EO, Extrême-Orient. Oui.
Il y avait des soldats d'Indochine qui participaient aux opérations dans
des soldats qui s'étaient battus en Indochine et après qui se sont battus dans les Djebel avec nous. On était troupes d'intervention, donc on grenouillait dans toute l'Algérie, quoi. Hein.
Et comment ils étaient? Comment ils se comportaient?
Aucun problème, c'était des combattants exceptionnels, remarquables à tout point de vue. Pour nous, ils étaient vietnamiens, mais ils portaient le béret rouge, et pour nous, c'était des parachutistes.
Il y avait la femme d'un militaire qui faisait collection de képis. Il y avait des blancs, des rouges, des verts, c'en était de bien beaux bibis. C'est la femme du sergent qui, pour gagner beaucoup d'argent, levait la jambe à tour de bras quand son mari n'était pas là. Lui dépensait sa solde à boire, faut dire que c'était son métier. Aussi le soir, fallait le voir parler de l'Indo et de la Corée. J'étais dans les rizières, j'avais 100 hommes à moi. Le flingue en bandoulière, on courait contre les pas. Un soir d'ivresse, elle mourut sous celui qu'elle appelait Charles Martel, un 3 étoiles plutôt foutu qui l'envoya qu'au premier ciel. C'est la femme du sergent qui, pour gagner beaucoup d'argent, levait la jambe à tour de bras quand son mari n'était pas là. Lui dépensait sa solde à boire, faut dire que c'était son métier. Aussi le soir, fallait le voir parler de l'Indo et de la Corée. J'étais dans les rizières, j'avais 2 hommes à moi. On marchait à la bière et c'était mieux comme ça.
Lui, il est le chef.
Le chef de...
Enfin, le chef, Wang. H-O-A-N-G. J'étais médecin colonel de la division aéroportée sud-vietnamienne. Sud-vietnamien, hein, attention, sud-vietnamien, qui ont combattu de 1950 à 1975 pour défendre le Sud-Vietnam, quoi. Hein.
Contre le Viet Minh.
Contre le Viet Minh.
Contre Chi Minh et les autres.
Voilà, oui. Par exemple, à Dien Bien Phu, la moitié de la garnison, ça, on le dit jamais assez, presque la moitié de la garnison était des Vietnamiens. Hein. Et puis bon, après le départ du corps expéditionnaire français en 1956, nous, les Sud-Vietnamiens, on a continué la guerre avec les Américains.
Avec les Américains,
oui.
Voilà.
Et puis après le départ des Américains, tout seul, jusqu'à la chute de 75. Nous sommes restés après, jusqu'à la chute de Saigon.
Tout seul, à combattre. Hein? Oui.
Bon, alors nous avons une organisation d'anciens combattants sud-vietnamiens, et puis une association des professions de santé du Vietnam libre.
Du Vietnam libre.
Du Vietnam libre, hein, parce que l'autre côté, ils ont aussi une association.
Et encore aujourd'hui, à Paris, en 2004, oui. Il y a encore les deux côtés Paris.
À Paris.
La frontière et les deux camps sont toujours représentés, existent presque plus à Paris qu'au Vietnam, non?
Non, au Vietnam, c'est pas possible, hein, c'est le parti unique. Hein. Alors, ce n'est qu'en France seulement qu'on a les Vietnamiens libres, hein, et puis les Vietnamiens coco, quoi. Hein.
Avec eux, il y a l'intégration, il n'y a aucun problème. Avec les Vietnamiens, il n'y a eu aucun problème.
Pourquoi?
Parce que je vous dis, c'est une culture orientale qui est très malléable et qui sait s'adapter facilement, peut-être plus facilement que nos anciennes colonies.
Actuellement, à l'exposition coloniale, cette ligue a pour objet l'instruction et l'éducation des adultes illettrés, français et étrangers.
L'Indochine, perle de l'empire colonial français, n'a pas, semble-t-il, été profondément affectée par les revers de 1940.
La première journal, le premier journal que j'ai acheté le lendemain à Paris, j'ai acheté l'Humanité.
Ah oui, ça en fait de l'histoire. En quelques secondes, c'est une page qui est en train de tourner, on le voit, devant ce monument aux morts. C'est une des histoires qui s'éloignent de plus en plus de nous. Si on se baladait dans le quartier de notre Chinatown parisien et qu'on demande aux jeunes chinois vietnamiens, ou vietnamien chinois, comme on voudra, de nous raconter cette histoire, je pense que pas mal serait bien en peine de l'évoquer. Alors, on a vu, là, on est allé du côté du monde libre, de ceux qui se sont battus avec ferveur et férocité pour défendre le monde libre, et on va, là, maintenant, dans un autre, de l'autre côté, c'est un foyer, le foyer Vietnam, qui est rue Monge, à Paris, dans le 5e arrondissement, auprès du métro Place Monge, et c'est un foyer associatif, vietnamien, absolument authentique, où l'on fait de la cuisine familiale vietnamienne, mais pas seulement.
Bon, merci beaucoup, hein, c'était très bon. On s'est régalé.
Voilà, c'est Monsieur Tran.
Monsieur Tran.
Il est le maître des lieux.
Et on est où ici d'ailleurs?
C'est mon quartier général.
On est dans le 5e?
On est dans le 5e, on est 80 rue Monge et on est dans le foyer Vietnam. C'est géré par Monsieur Tran.
Et vous, Monsieur Tran, vous êtes à Paris depuis quand?
Oh, je suis à Paris à peu près environ une vingtaine d'années. Et je suis cuisinier. J'étais chef de partie au billet de cochon au Halles.
Au billet de cochon?
Oui, j'ai travaillé dans le grand café à l'Opéra. Et j'étais à la maison d'Alsace, au Saint-Mizet.
Là, c'est la spécialité de choucroute?
Oui. Voilà, la choucroute, oui.
Ah oui, billet de cochon, choucroute, c'est vraiment des traditions françaises.
Oui, oui.
Alors, c'est quoi votre spécialité de cuisine française?
Oh, je pense, j'aime beaucoup les plats de Gascogne, du sud-est.
Ah bon?
J'aime beaucoup le foie frais aux figues.
Aux figues?
Oui.
Foie gras de canard frais aux figues.
Surtout les cèpes, hein, maintenant, c'est la saison.
Et qu'est-ce qu'on boit avec ça?
Oh, mais ça, c'est une chose très délicate. Pour moi, personnellement, je pense qu'on peut prendre un foie gras et on goûte un vin selon le goût. Moi, je ne pense pas une obligatoire de prendre un Jura ou un Sancerre ou un vin sucré ou quelque chose. Mais je pense, pourquoi pas avec un Bourgogne léger, bien fait, parfumé avec un foie gras, c'est merveilleux, hein? Hein? Mais par rapport avec les marais de canard ou un bon bien rouge, ça c'est il faut accompagner un bon vin costaud. Hein,
pour un magret.
Ou un château-neuf du Baf ou quelque chose. Hein.
Ah oui, un bon Côte-du-Rhône aussi.
Oui.
Ah voilà, on se retrouve en 5 minutes à parler de gastronomie française pour parler avec vous, monsieur, du Paris asiatique et en particulier du Paris vietnamien. Là on est en plein dedans quoi.
Le K, il faut prononcer comme arabe, Khan.
Khan.
Pas canton ni canette, tout ça. Nguyen Khan Hoi. Je suis jeune, hein. J'ai entre... Oh, j'ai peut-être 24 ans. Mais il faut multiplier par 3, quand même.
Ah bon, d'accord. Vous êtes arrivé quand, vous?
C'est le 3 novembre 1948.
48. Vous aviez quel âge?
16 ans et demi, 17 ans. Et je venais de Saigon. À l'époque, les Vietnamiens ont compté sur le doigt. Les restaurants chinois, il y avait au quartier latin surtout, peut-être une trentaine, et puis à côté de la gare de Lyon.
Quand vous arrivez, c'était ça le quartier?
Oui, je voulais faire une école professionnelle pour pouvoir travailler après. Si la famille est pauvre, on ne peut pas envoyer. Ils ont cotisé, ils ont emprunté pour payer le voyage.
Quelle mise en garde, quelles recommandations vous avez fait avant de partir à Paris, la capitale de l'Empire?
Mon père m'a dit une seule phrase avant de monter. Il m'a dit, mon fils, ici se termine l'éducation familiale. Tu vas là, un grand pays, on appelle Ville Lumière, si tu es intelligent, tu apprends les choses bien. Si tu n'es pas intelligent, tu apprends des choses moins bien. Et ça, c'est ton problème, parce que la famille ne peut rien pour toi. Et moi, je garde toujours ça en tête.
Comment em trong phút giây chia ly, anh hàng chồng mong em ngày với đêm. J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours ton retour. J'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus lourd. C'est pourtant j'attendrai ton retour.
Ah, ben ça c'est quelque chose, hein. Là on est vraiment dans le franco-vietnamien, à fond dans ce restaurant, foyer vietnamien de la rue Monge à Paris, un des lieux de ce Paris, terre d'Asie, où Monsieur Hoi évoque son arrivée en 1948.
Et j'habitais dans un bordel, un vrai bordel. C'est Marc Richard,
ouais.
Il a fermé, il nous loue ça.
Ah oui, quand Marc Richard a fermé son bordel, vous étiez logé là-bas dans le lupanard.
Une chambre, oui. Dans ma chambre, il reste que cette chambre-là. Ils appellent ça la prison. Et tout noir avec des pierres, lavabo noir. Et puis il y avait deux anneaux comme ça, dans le mur, pour les masos sachos, je ne sais pas quoi.
Masos sachos, oui.
Masos sachos, là. Et puis on habite ça pendant 3-4 ans, hein.
Vous avez habité dans une salle de torture d'un bordel.
Exactement. Enfin, soi-disant torture, mais enfin, torture avec plaisir, quoi.
C'était comment le Paris à l'époque, justement, le Paris de 48?
Eh bien, 48, c'était juste après les grandes grèves de Renault, après que Thorez ait déboulonné du gouvernement, tout le bazar, quoi. Donc, il y a un mouvement social assez important. Et à l'époque, en 48, c'est vraiment le début de la guerre d'Indochine. Très peu de gens savent. Mon prof à l'école privée, à l'école technique, là, il ne sait pas que ça c'est où est le Vietnam. Jamais je connais l'Indochine, mais t'es où toi? Le Vietnam, il dit non. C'est peut-être Annam, j'ai dit non.
Cochinchine, oui, c'était les noms Annam, Cochinchine, mais pas
Tonkin,
Vietnam.
Annam, Cochinchine.
Tonkin, Annam, Cochinchine.
Vietnam, c'est le tout.
Donc c'était une période de grande agitation sociale et politique en France.
Oui, il y a des grèves partout.
Ça vous intéressait tout ça?
Forcément, j'ai toujours... Le premier journal que j'ai acheté le lendemain à Paris, j'ai acheté l'Humanité. Mais là-bas, quand tu vois l'emblème faucille et marteau, tu te fais croffer, tu te fais fissiller. Alors qu'ici, ça se vend partout. J'ai dit, merde, qu'est-ce que c'est que ce journal?
Avec qui vous militiez ici? Parlez-nous un peu de votre engagement ici, pour l'indépendance, là-bas.
Je suis, si vous voulez, marxiste. Je suis, comme on dit, un communiste sans parti. Je n'aime pas trop l'appareil. Mais non, ça ne me correspond pas. Ouais. Ça n'empêche pas que je milite avec tout le monde. Ben, moi, je voulais un Vietnam moderne, disons, où il y avait une justice. C'est comme la devise de liberté, égalité, fraternité. La France a fait ça, mais ils n'ont jamais pu finir. Il y a toujours l'injustice.
Et voilà, la boucle est bouclée, liberté, égalité, fraternité, c'était le début de notre balade à la gare de Lyon, à côté de la gare de Lyon, dans cette rue disparue de l'îlot Chalon, de la rue Chalon. Et bien c'est là que, au début du XXe siècle, les Chinois découvraient ces valeurs et devaient les emporter là-bas, en Chine et au sud-est asiatique, et faire cette histoire, des ferments pour presque un siècle d'histoire. On voit qu'à travers ce Paris asiatique, eh bien, la guerre froide traverse complètement cette histoire entre ceux qui se battaient pour le monde libre, comme on disait, et puis des gens comme Monsieur Hoy, qu'on peut rencontrer dans ce resto qui est 80 rue Monge, dans le 5e arrondissement de Paris. Il y a un menu à 8 € pour les étudiants et les membres de l'UGVF, l'Union Générale des Vietnamiens de France, mais vous pouvez aller y faire un tour, y manger un soir et rencontrer, si vous voulez, Monsieur Hoy. Alors, lui, il évoque son époque, évidemment, 1948, lorsqu'il est arrivé, mais voilà que l'histoire continue, l'histoire recommence. Juste à côté de nous, il y a un jeune homme timide qui nous regarde.
Bonjour. Comment vous appelez ?
Chen Dezhan.
Chen Dezhan ?
Oui. Oui, j'ai 24 ans.
Et alors, ça fait combien de temps que vous êtes arrivé à Paris ?
Une semaine.
Une semaine ?
Une semaine. J'habite à Créteil.
À Créteil ?
Oui.
Et vous arrivez d'où ?
Au Hanoï. Je veux étudier finance et banque, spécial finance d'entreprise.
Combien de temps vous allez rester à Paris ?
Peut-être 3 ans.
3 ans ?
Oui. 1 an pour apprendre le français et 2 ans pour apprendre mon master.
Vous avez de la famille ou des proches qui sont déjà en France ?
Non, non, aucune famille.
Có một người bạn Việt Nam đến chờ tôi ở Saigon. Saigon quả thật là một sân bay rất to, nhưng mà tôi đến Saigon vào một cái tầm.
Normalement, il y a un ami qui vient, mais pas d'une organisation quelconque. Et malheureusement, l'avion est arrivé trop tard et l'homme est parti, donc il est tout seul. Il prend le métro, mais il a beaucoup peur. Alors il dit. Surtout, ce qui me fait surprise, c'est qu'il y a beaucoup de personnes noires.
Ah oui, donc ce qui s'est surpris en arrivant à Paris, c'est qu'il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de noirs.
Oui.
Et alors les Parisiens, comment ils sont ? Vous avez dit les premiers que vous avez vus, c'est les noirs, mais les autres ?
Les gens qui sont à Paris, comme les gens, peut-être les gens, không phải là người da đen, thì chúng họ rất bận rộn, nhưng mà lịch sự.
La première chose que je remarque, c'est qu'ils sont très pressés. Ils courent tout le temps. Mais dans l'ensemble, ils sont gentils.
Alors on va refermer, on va laisser l'endroit se rendormir pour un moment. Et voilà, ça retombe dans la semi-obscurité. Il n'y a plus que la lumière qui filtre des persiennes de style indo-chinois sur le côté et on referme. Le loquet. Et le rideau.
Enfant indochinois, jongleur aux innocents couteaux qui vendit autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié. Enfant trop tôt grandi et si vite en allé qui dormait aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre et des bombes incendiaires la bourrant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés. On vous a retourné vos petits couteaux dans le dos.
Ainsi parlait, écrivait Jacques Prévert dans ce poème que vous connaissez tous qui s'appelle Étranges étrangers. Merci à tous, monsieur, merci à monsieur Randhoy, merci à Tan, à Tam et Hervé, à Pascal Blanchard, Éric Dereau. Je rappelle le titre de leur bouquin, Le Parisasie. Le reporter, c'était Guy Ventil. Un concert à signaler au Lavoir moderne parisien du 23 novembre, 11 décembre, concert de Loïc Antoine à 20h, métro Château Rouge, dans le 18e arrondissement de Paris. Ça, c'est un spécial copinage. M'en aime beaucoup, Loïc Antoine. Et puis, donc, le restaurant, je rappelle, le foyer vietnamien, c'est au 80 rue Monge, dans le 5e arrondissement de Paris. Technique aujourd'hui, Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne. L'équipe de la basse, j'y suis, c'est Yann Chouquet, Raphaël Mouter, de Pascal E. Pascariello et Christophe Imbert. Le répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission. Bon, c'était génial, évidemment. Dans 32 secondes de pub, vous retrouverez Charivari avec Frédéric Bonneau. Nous, on se retrouve demain à 17h pour la base, si j'y suis. Salut.